Radio Kapi.
Denis Mukwege demande aux autorités congolaises de revoir en urgence la gouvernance sécuritaire et la diplomatie régionale. Le prix Nobel de la paix dit noter avec inquiétude l'augmentation des violations des droits humains et le nombre croissant des victimes parmi les civils dans les provinces sous état de siège. Ceci est contenu dans une déclaration rendue publique ce mercredi. La Cour constitutionnelle ne peut pas siéger valablement après le tirage au sort d'hier, tirage qui a éjecté Dieudonné Kalouba et Prince Funga, resté à 6 et privé de son président. Des questions persistent sur ce tirage au sort, nous en saurons plus avec Jeff Roy. L'invité de ce soir, Dan Kaniki, responsable de communication de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Depuis sa mise en service en 2017, cette structure assure la sécurité sociale de plus de 1000 retraités de la fonction publique. Madame, Messieurs, bonsoir. Le docteur Denis Mukwege plaide pour une réforme profonde du secteur de la sécurité en RDC, mais aussi pour un assainissement sérieux des forces de sécurité et de défense congolaises, des réformes qui sont indispensables à tout effort visant tant à la sécurisation du pays que de sa population. Les propos de Denis Mukwege sont contenus dans une déclaration rendue publique ce mercredi. Plus de détails avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Denis Mukwege a dit noter avec inquiétude l'augmentation des violations des droits humains ainsi que le nombre croissant de victimes parmi la population civile. Cela dans les provinces en conflit sous état de siège. Cette situation doit amener les autorités congolaises à revoir en urgence la gouvernance sécuritaire et la diplomatie régionale selon les prix Nobel congolais. Car selon lui, cette mesure exceptionnelle donc l'état de siège n'a pas vocation à durer dans le temps mais surtout que son impact sur la protection des civils est négatif. Raison pour laquelle le prix Nobel congolais juge qu'il est plutôt important de mettre en œuvre des réformes institutionnelles visant le secteur de la sécurité. Une action nécessaire pour consolider l'édification d'un état de droit fort et protecteur des libertés fondamentales. Il faudrait également accorder la priorité à la justice et à l'obligation de rendre des comptes pour les auteurs présumés des crimes les plus graves qui sont commis depuis plus d'un quart de siècle en RDC, insiste le docteur Denis Mukwege. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la Fédération des entreprises du Congo condamne les attaques ciblées dont sont victimes leurs membres sur les routes nationales numéro 4 et 27 dans la province de l'Ituri. Dans une déclaration faite hier à Bunia, cette organisation patronale dénonce les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les différents groupes armés actifs dans l'Ituri. Pour les opérateurs économiques, il est inconcevable que l'État n'assure pas la protection des commerçants et leurs marchandises alors qu'ils payent régulièrement les taxes dues, le point avec Jean-Claude Lokidile.
Le dernier cas en date est l'incendie de près de 10 véhicules attribués aux rebelles des ADF sur l'axe Bunia-Mambasa. Ces engins qui transportaient des marchandises ont été également pillés par ces rebelles. La liste est longue, nous a confié le président intérimaire de la FECON Ituri. Arsène Deza cite l'incendie de plusieurs gros camions et de voitures de transport en commun sur l'axe Bunia-Mahagi par des miliciens de la Codeco. Dans ces attaques, plusieurs commerçants ont également perdu la vie. Il indique qu'en l'espace d'un mois, les préjudices subis s'élèvent à plus d'un million de dollars américains.
Vous savez, il y a 6 camions brûlés déjà à cause des camions atroces. À peu près 1 200 000, c'est ces 6 camions là, parce qu'un camion coûte 200 000 dollars, plus les marchandises. Deux ont été des camions citernes qui transportaient des carburants. Ça fait beaucoup d'argent volatilisé comme ça.
L'AFEC se dit profondément touché par la passivité des forces de défense qui n'arrivent pas à rétablir la sécurité sur ces axes. Cela pour permettre aux opérateurs économiques d'exercer leurs activités en toute sécurité. C'est pourquoi dans sa déclaration, l'AFEC Ituri demande à l'État, je cite, d'indemniser les opérateurs économiques victimes de ces atrocités. La plupart des hommes d'affaires hésitent de prendre la route à cause de ces menaces. Conséquence, à Bunia par exemple, les prix des produits de première nécessité ont galopé sur le marché, non pas qu'on la réaction des autorités militaires à ce sujet. Pugna, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et du côté du Nord Kivu, 4 groupes armés se sont engagés lundi à Pinga à cesser tout affrontement entre eux. Pinga est à cheval entre le territoire de Walikale et celui de Masisi. Selon la société civile locale, ce pacte de non-agression a été signé par 8 délégués de ces groupes armés à l'issue d'une rencontre de 2 jours initiée par l'armée nationale congolaise. C'est dans le cadre du suivi des consultations de Nairobi, précise la société civile. Explication avec Bernardin Nyangi.
Pendant cette rencontre qui a réuni dimanche et lundi, entre autres Janvier Karaïr et du groupe APCLS basé à Masisi, Guidon Mouissa de un des rénovés de Walikale, Santos Domi de Semse Nyatura et Jean-Marie Nyamuganya de Nyatura Bazungu de Masisi et Ruchuru, une restitution des résultats du premier round de consultation de Nairobi a été faite aux responsables de ce groupe rebelle, indique le président de la société civile de Pinga Bushimo. Monsieur Guillaume Baloumé Kaombo estime que le pacte de non-agression entre ces groupes qui s'affrontent presque chaque semaine entre eux dans le territoire de Walikale, Masisi et Ruchuru donne un certain espoir.
Si une fois ça marche bien, ça nous garantit parce que ça nous fait du mal car il y en a la guerre d'ici et là. Tous les jours, c'était l'appel du gouvernement de dire à tous les groupes armés de cesser les faits. Et là, c'est le premier pas. Ils ont cessé d'abord entre eux et puis ils ont signé qu'ils vont laisser libre la population même dans les zones où ils occupent en attendant d'autres processus du gouvernement.
Cette rencontre qui a été organisée en Kassa à Pinga a été une initiative de l'armée congolaise, selon les sources sur place. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, à Goma, l'armée congolaise a présenté à la presse hier 30 éléments M23 capturés et rendus durant les affrontements de fin avril dernier, parmi eux des Rwandais. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, ces éléments sont détenus provisoirement par l'armée en attendant de les orienter soit vers le processus PDD-RCS, soit de les déférer devant la justice selon le cas. Le lieutenant-colonel Guillaume Djikekaiko précise que sur la ligne de front actuellement, le cessez-le-feu reste observé. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 est au micro de Bernard Nyangi.
C'est depuis un temps que les forces armées de la République démocratique du Congo observent une trêve par rapport aux opérations contre le mouvement rebelle M23, conformément au pourparlers de Nairobi. Malgré cela, nous avons constaté qu'à 2 reprises, le M23 ont tenté d'infiltrer les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui nous a poussé à réagir de la manière la plus forte, jusqu'à récupérer tous les groupements Djomba presque. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de Bougoussa et nous avons confiné l'ennemi juste sur les 2 collines. Et la preuve, ce sont les éléments qui sont derrière moi, parmi lesquels vous avez des rendus en 23, mais aussi des capturés lors des différentes infiltrations. Donc, ils vont répondre de leurs actes. Et les rendus, les citoyens congolais vont devoir suivre le PDD-RCS. Pour les citoyens étrangers, nous avons les mécanismes conjoints de vérification élargie.
Rappelons qu'après les derniers combats entre le 23 et le 28 avril dernier, les FARDC occupent depuis plusieurs localités du groupement Djomba dans le territoire de Rutshuru, alors que les rebelles du M23 sont sur les collines de Runyoni et Tchanzu. Direction le Sud Kivu. L'UNESCO s'engage à promouvoir des relations de travail professionnelles et harmonieuses entre la presse et les forces de l'ordre. Cette agence onusienne organise une formation pour les policiers et les journalistes de Bukavu depuis hier. Le but est que les agents des forces de l'ordre puissent s'imprégner du rôle et de la fonction des journalistes et que les journalistes puissent comprendre les restrictions à la liberté de la presse dans des situations d'exception. Écoutez à ce sujet Joseph Potopoto, spécialiste des programmes information et communication au bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Il est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
La formation se justifie au regard d'un rapport général fait par l'UNESCO à l'échelle planétaire. Ces rapports qui renseignent qu'il y a eu beaucoup plus de répression à l'encontre des journalistes lors de manifestations publiques les moyens utilisés par les forces de la police partout au monde sont à l'encontre de la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui viennent couvrir les manifestations et qui sont violentés, caméras confisquées, micros confisqués, parfois même certains sont victimes de répression à balles, tout ça. Et l'UNESCO avait conçu un module pour justement former les policiers et les journalistes ensemble pour arriver justement à améliorer le pratique de sécurisation des journalistes lors des manifestations publiques.
Et puis ce tirage au sort hier à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Diboa et Prince Funga Mulima ont été tirés au sort, vous le savez. Restée à 6, la Cour ne peut pas valablement siéger et privée de son président qui devra être élu par ses pairs après avoir remplacé ceux qui viennent de partir et Polycarpe Mongoul qui venait de décéder. Mais l'intérim est automatique et c'est Corneille Ouassenda par préséance qui devra logiquement assurer l'intérim de président en dépit du fait que le juge Dieudonné Kamuleta en soit pressenti selon certaines sources. Mais des questions persistent sur ce tirage au sort et sur ce qui va s'en suivre. Jeff Ngoy, qu'en est-il?
Le mandat du juge de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable selon l'article 6 de sa loi organique et l'alinéa 3 de l'article 158 de la Constitution. Toujours d'après les dispositions légales, un tiers des membres sortants sont remplacés tous les 3 ans par tirage au sort du membre sortant par composante pour les membres initialement nommés. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Willy Wenga décortique la loi.
Le tirage au sort ici est constitutionnel, légal, une fois qu'on a remplacé par tirage au sort, et que si ce tirage concerne aussi le président de la Cour constitutionnelle, qui d'abord juge, il sera procédé à l'élection d'un nouveau président, mais avant d'y arriver, la Cour sera dirigée par un juge intérimaire. Conformément à l'article 18 du règlement intérieur, le membre le plus ancien assure l'intérim. Et cette ancienneté s'apprécie par rapport à la date de nomination à la Cour constitutionnelle.
Qu'est-ce qui va suivre au terme de ce tirage au sort?
Les trois groupes qui devront donner les délégués, c'est-à-dire le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature et le Président de la République, devront envoyer leurs nouveaux délégués pour que ce dernier soit nommé juge constitutionnel.
Le premier tirage au sort a eu lieu en 2018 et le second, qui devait intervenir en avril 2021, est intervenu de fait en 2020. Alors Kalouba Kamuleta et Kaloumé sont venus achever le mandat des autres, dont Benoît Luamba, avec possibilité d'être renouvelé.
Troisième jour ce mercredi à Cape Town en Afrique du Sud de la conférence minière Indaba, la province du Lualaba y est représentée par une forte délégation conduite par son gouverneur intérimaire. Pour le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ce forum est une opportunité pour sa province de faire valoir ses potentialités et attirer ainsi les investisseurs. On écoute le député provincial du Lualaba, Gaston Mouchid, joint par Jean Gandou.
Ce forum international se veut un rendez-vous important qui réunit les capitaines d'industrie, les banquiers, les organisations non gouvernementales venues du monde entier, ainsi que les décideurs politiques de pays producteurs de minerais. Lorsque Mme Fifi Masuka, gouverneur AI s'emploie, a présenté les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier du Lualaba, nous les députés provinciaux examinons la possibilité d'élaborer des édits d'encadrement pour que la population tire profit de cette exploitation des ressources minières. Aujourd'hui, le monde veut lutter contre les réchauffements climatiques et réduire des émissions de gaz à effet de serre. La province du Lualaba renferme un bon nombre de métaux susceptibles de contribuer à la transition énergétique, entre autres les cobalt, les cuivres, le manganèse, le zinc, j'en passe. Ce forum est donc une belle opportunité pour la RDC en général et la province du Lualaba en particulier de faire valoir ses potentialités dans la production des principaux matériels qui entrent dans la fabrication des batteries électriques.
Il existe bel et bien la traite des personnes dans la province du Kasaï oriental. Cette affirmation a été donnée mardi à la clôture de la formation des acteurs de première ligne sur la traite des personnes, formation organisée pendant 4 jours par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP. une structure spécialisée de la présidence de la République, les magistrats, les avocats, les agents de l'ANR, les auditeurs et autres acteurs sociaux ont pris part à ces travaux. Ils ont été édifiés sur quelques thématiques dont la communication pour le changement de comportement en matière de lutte contre la traite des personnes, les enquêtes et les investigations ainsi que le référencement des victimes. Roger Mobé, chargé d'études à l'APLTP, s'exprime au micro de Esther Dalafina.
La mission de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes ici en Kumaï est axée sur deux volets. Le premier volet, c'est la formation des acteurs de première ligne sur la traite, la notion de traite des êtres humains. Et le second volet, c'est la collecte de données en rapport avec ces crimes ici dans la province de Kasaï Occidentale. Collecte, c'est une démarche heuristique et méthodique des recueils, des traitements et des analyses des informations sur un sujet ou un phénomène donné. Sur base des informations mises à notre disposition, nous ne pouvons qu'affirmer notre hypothèse de départ qu'il existe bel et bien la traite de personnes ici en Bujimaï. Si nous avons remarqué, donc, c'est beaucoup plus les mariages forcés qui constituent vraiment donc la forme la plus répandue dans la province du Kasaï oriental. Nous serons donc à mesure, nous, au niveau de l'agence d'attaque et de la coordination, de définir notre politique d'action et des stratégies pour la prise en charge des victimes de traite de personnes et accentuer notre plaidoyer au niveau du Parlement pour les votes de la loi spécifique sur la traite des êtres humains.
Actualité Afrique Monde.
L'Inde a passé officiellement le flambeau à la Côte d'Ivoire ce mercredi pour présider la COP jusqu'à la prochaine en 2024. C'est l'ancien ministre Alain Donoï qui a été choisi pour diriger cette COP 15 au nom de l'État ivoirien pour 2 ans. Et puis, la journaliste Shirin Abou Akleh, l'une des plus connues de la chaîne arabe Al Jazeera, a été tuée, touchée par une balle dans la tête ce matin, ce alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur des Jenin en Cisjordanie occupée. Sur Al Jazeera ce matin, un de ses collègues précise qu'à 6h13, heure locale, Shirin Abou leur a envoyé un dernier courriel précisant que l'armée israélienne était entrée dans le camp des Jenin et encerclait une maison et elle se rendait sur place. Il attendait ensuite pour un direct à 7h, mais elle n'a pas répondu. Ils ont ensuite entendu la nouvelle de sa mort.
L'invité.
La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNCSAP, a déjà immatriculé plus de 89 000 agents sur plus de 172 000 payés par l'État congolais, sont concernés par les contributions sur leur salaire de 3% à la CNCSAP, les fonctionnaires de l'État, les enseignants du secteur public, les magistrats ainsi que les policiers et militaires. C'est ce qu'a affirmé mardi au cours d'une journée de sensibilisation des médias le responsable de communication de ce service de l'État. Pour Dan Kaniki, depuis sa mise en service en 2017, cette structure assure la sécurité sociale de plus de 1000 retraités de la fonction publique et a déjà enregistré plus de 30,9 millions de réserves en 2020. Elle est à cet effet la première institution publique certifiée en RDC sur le plan de la performance, ajoute notre invité Dan Kaniki qui en parle avec Michel Kifindangoy.
Monsieur Dan Kaniki, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez fait une sensibilisation avec les médias sur la CNCSAP. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette caisse nouvellement créée, qui est différente d'ailleurs de la CNSS?
Oui, merci beaucoup. La CNCSAP, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale, les agents publics de l'État. C'est un établissement public qui a un caractère social, qui a été créé pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État. Alors c'est depuis 2015 qu'elle existe et aujourd'hui on a pensé qu'il était important de mettre quand même la presse autour de nous pour discuter un peu des réalisations de cette caisse à ce jour et de revenir un peu quand même sur les fondamentaux de la sécurité sociale. Comme vous venez de le dire d'ailleurs, cette confusion ou cette différence que vous avez compris aujourd'hui entre la CNCS et la CNSAP, c'est également l'une des confusions qui est entretenue par le fait que d'un manque de sensibilisation, d'un manque d'information. Voilà pourquoi on a pensé que lors de cette séance, il serait important de revenir sur les notions des bases, sur les catégories des assujettis de la CNSAP, et même sur les perspectives de la CNSAP, pour voir en quoi cette institution est utile actuellement pour le pays et en quoi elle est différente de celle qui existe déjà, la CNSS.
Et quelle est la différence justement?
La différence fondamentale, c'est sur le public ou les assujettis bénéficiaires. Au niveau de la CNSS, ce sont les agents qui sont régis par le Code du travail, mais également le travailleur du secteur informel. Au niveau de la CNSAP, ce sont les agents publics de l'État qui sont régis par des statuts particuliers.
Et donc les enseignants qui sont payés par l'État sont aussi concernés par la CNSAP?
Exactement. Ils le sont autant que les agents de carrière, les services publics de l'État, les policiers, les militaires, les magistrats. Il ne reste qu'une loi, la loi qui est en cours de discussion au niveau du Sénat, soit adoptée pour que des mécanismes de prise en charge directe de ces catégories les soient directement.
Alors aujourd'hui, il y a combien d'agents de l'État environ qui contribuent à la CNSAP?
On a environ 172 000, autour de 172 000 agents publics cotisants au niveau de la CNSAP qui sont disséminés sur tout le territoire national. Et on a déjà plus de la moitié de ces agents qui actuellement sont immatriculés, donc qui sont enregistrés dans les bases de données de la CNSAP. Mais comme l'immatriculation est une activité permanente, au moment où je vous parle, il y a encore des opérations qui sont en cours au niveau des provinces et à Kinshasa. L'objectif, c'est d'atteindre le total de tous les cotisants immatriculés à la CNSAP.
Est-ce qu'il y a déjà des bénéficiaires qui existent? Ils sont en nombre de combien? Et vous avez dans votre caisse actuellement environ combien d'argent? Parce que pour répondre aux besoins des bénéficiaires, ça suppose que vous ayez suffisamment de moyens.
Alors, on a environ 1000 prestataires. Par le simple fait que depuis que la CNSAP est créée, il y a eu une seule vague des mises à la retraite en 2017, mais également il y a les bénéficiaires survivants de certains retraités qui décèdent ou même des agents actifs qui décèdent. Ils constituent donc ce nombre que je viens de citer. Mais en ce qui concerne les réserves, j'ai préféré m'atteler aux chiffres récemment certifiés. Le tout dernier chiffre, c'est 30,1 millions de dollars mis en réserve actuellement, en dépôt à terme en réalité. Et des comptes qui ont donc été certifiés par la firme internationale Price. Mais à ce jour, on est un peu à plus que ça, mais je préfère évoquer le montant qui a été certifié.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Notre invité, le responsable de la communication à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, répondait aux questions de Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rumushinj, mis en nom de Mimi Kindou. Belinda Bossouma vous l'a présenté. Merci de votre attention.